Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet, Michaël Goncalves, Elsa Olaizola.
Bonjour, bonsoir. Quand on feuillette cet ouvrage, quand on regarde les dessins et les crayonnés, les reproductions de planches, de couvertures de bandes dessinées, les illustrations aussi, on a une impression assez incroyable, celle d'être soi-même dans le dessin, de faire partie de la scène que l'on a sous les yeux, ou d'en être le proche, voire le très proche spectateur. Pourtant, les œuvres de Jean-Pierre Gibrin ont l'air de nous parler d'une autre époque, celle de la première moitié du XXe siècle qui l'intéresse tant, celle des deux guerres mondiales et de l'entre-deux-guerres, dans laquelle il met en scène ses personnages avec une humanité si touchante qu'on voudrait être leur ami ou leur amant. Est-ce pour cela que ces images nous parlent autant? Est-ce l'élégance des traits? Est-ce la douceur de la lumière? Est-ce la précision des décors? Est-ce les attitudes des personnages qui donnent cette étrange impression de partager les émotions qu'il nous livre par la magie de son trait et de ses couleurs? Tentons aujourd'hui de résoudre le mystère Gibra à l'occasion de la parution d'un artbook dans lequel on retrouve ses dessins, bien sûr, mais aussi ses mots, recueillis par ma consoeur de France Inter, Rebecca Manzoni, L'hiver en été, et publié aux éditions Daniel Maguen, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jean-Pierre Gibra.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un artbook, c'est d'abord évidemment un très bel objet, un objet qu'on peut offrir, mais c'est aussi un recueil d'images et donc forcément une sélection. Et donc peut-être pour vous aussi un crève-cœur. Comment est-ce que vous avez fait pour sélectionner? Quels ont été vos critères?
J'ai pas été seul dans cette fonction. On a fait ça avec Vincent Audin et Emmanuel Leroy. Et Daniel Maguen. Et donc, ça a donné lieu à des grandes discussions par moment, mais en gros, on était à 80% d'accord sur ce qu'il fallait sélectionner, enfin, sur les dessins qu'on allait retenir.
L'idée, c'était de faire quelque chose de représentatif, de montrer la variété, de montrer l'étendue de votre œuvre. Il fallait être exhaustif, ou c'est pas du tout ça qui vous a guidé?
Le premier critère, sans doute, c'était d'essayer de garder les meilleurs. C'est-à-dire d'éliminer les moins bons. Et quelquefois, on en a gardé qui n'avaient pas une qualité graphique exceptionnelle, mais même très très moyenne. Mais par contre, qui représentaient quelque chose qui me tenait à cœur. En particulier, ces petits croquis, où là, ça donnait lieu à des discussions plus serrées. Et moi, je tenais absolument à les mettre parce que, en fin de compte, dans toutes ces illustrations qui sont quand même relativement finalisées, il y a des étapes. Il y a un crayonné, il y a un ancrage, voilà. Et les tout premiers crayonnés, voire les petites esquisses avant même de faire le dessin, ont quelque chose de vivant qu'on ne retrouve pas. Enfin, qu'on perd au fur et à mesure qu'on essaie de bien faire, quoi. Oui. Il y a cette phrase qui est magnifique c'était Giacometti qui disait plus j'en rajoute et plus il en manque. Je trouve que c'est tellement vrai. Et je suis tombé il y a peu de temps sur j'adore Saint-Ex.
Saint-Exupéry,
oui. Saint-Ex, ça fait vraiment le mec qui est copain avec lui.
Saint-Exupéry. On l'est tous un peu.
On l'est tous un peu. Mais le pire, c'est que j'ai jamais lu Le Petit Prince, qui est quand même son plus que best-seller. Mais il y avait un bouquin que j'avais adoré qui s'appelle Terre des Hommes. Et là, à la faveur d'une insomnie, je refeuilletais et je suis retombé sur cette phrase où il dit un chef-d'œuvre, c'est pas quand on n'a plus rien à rajouter, c'est quand on n'a plus rien à enlever. Donc c'est exactement la même idée. Et tout ça pour revenir aux croquis. Les croquis sont la première, la première impression qu'on jette sur le papier, avec des maladresses peut-être, mais par contre il y a une sincérité et une expression qui vous dépasse. Et comme on n'a pas la pression de se dire c'est ce qu'on va retenir à la fin, puisqu'on va retravailler peut-être à la table lumineuse, on va se servir de ce croquis-là pour faire d'autres dessins, pour partir de ce croquis-là. Mais n'empêche que dans ces premiers croquis, il y a quelque chose d'incroyablement vivant que malheureusement on perd au fur et à mesure.
Mais alors justement, puisque vous parlez technique tout de suite...
Cuisine.
Précisément, cuisine, comme vous dites Jean-Pierre Gibra. Quelles sont les techniques que vous utilisez? C'est de la peinture, c'est de la gouache, c'est
non,
de la
en fait, voilà, les gens... pense en grande majorité que c'est de l'aquarelle. Il y a quelquefois un peu d'aquarelle, mais ce sont surtout des encres acryliques, mais qui ont exactement les mêmes caractéristiques, à savoir que avec un bénéfice supplémentaire, c'est qu'on peut travailler en transparence évidemment comme l'aquarelle, mais une fois que c'est sec, on peut retravailler à l'infini dessus. C'est plus près des glacis de peinture à l'huile. Enfin, je connais pas la technique de peinture à l'huile, mais je sais qu'il y a deux familles d'expression de la peinture à l'huile. C'est les glacis, qui sont des superpositions de jus, et un travail en pâte. Et donc là, moi, c'est un travail en transparence qui est très très proche de l'aquarelle, sauf que ça peut être à l'infini. Voilà.
Et c'est vrai que quand on tourne les pages de cet artbook, on a vraiment l'impression de se promener, Jean-Pierre Gibras, dans une sorte de galerie de tableaux. Alors je vous pose la question, est-ce que vos dessins, vos illustrations sont des tableaux ?
Non. Voilà une réponse.
C'est donc une fausse impression.
Oui,
parce que vous travaillez... On n'est pas dans la ligne claire, on n'est pas dans le style RG, pas du tout. Voilà, vous utilisez la technique qu'on appelle la technique de la couleur directe, c'est-à-dire qu'on ne sépare pas la couleur et les contours qui sont faits au noir, et ça donne justement cette impression très picturale.
Quand je dis tableau, la réponse est radicale, mais en tout cas, c'est pas de la peinture, c'est ça que je veux dire. Des tableaux, c'est plus général que ça, mais pour moi, c'est du dessin mis en couleur. Il faut tout le temps que ça soit du dessin mis en couleur.
Et à chaque D'où l'importance des crayonnés qu'on évoquait à l'instant.
Oui, et puis qu'à la fin, le trait soit quand même prioritaire sur la couleur. C'est-à-dire à chaque fois que je me suis laissé piéger à vouloir trop en dire avec la couleur, voire mettre trop de volume, j'arrivais à un truc assez bâtard qui faisait que c'était pas de la peinture, c'était pas aussi bien qu'une illustration à l'huile ou à l'acrylique, et c'était plus aussi bien qu'un dessin mis en couleur. Voilà, c'est-à-dire le mieux est l'ennemi du bien là aussi, et je fais attention tout le temps de donner priorité au dessin, au trait.
Alors il y a les images dans cet artbook, il y a aussi les mots, mots recueillis par ma consoeur Rebecca Manzoni, restitués sous la forme d'un dialogue, un long entretien qui serpente ainsi entre vos dessins. Pour vous, c'était un dialogue avec une amie ou un dialogue avec une journaliste ?
Les deux. C'était un dialogue avec une amie d'abord, mais c'était aussi... j'ai eu la chance, Rebecca Manzoni, c'est quand même dans le domaine de l'interview, c'est un peu la Claudine Aigneret de l'interview. Il y a une certaine altitude quand même. Hein. Donc j'ai bénéficié évidemment de son talent et aussi de la complicité, puisque on se connaît depuis une vingtaine d'années. Donc il y avait des angles qu'on pouvait aborder en toute décontraction, parce que il n'y avait pas de gêne, quoi. On pouvait aborder tous les sujets, voilà.
Et la première œuvre que cite Rebecca Manzoni, c'est Le Sursis, premier tome en 1997, le second 2 ans plus tard chez Dupuis, dans la prestigieuse collection Air Libre. C'est un tournant, hein, c'est ce que vous nous expliquez tous les deux. C'est votre première BD 100% Gibras, 100% à vous. On a l'impression que franchir ce pas, Jean-Pierre Gibras, c'est une sorte de nouveau départ, c'est clair, mais même de libération. C'est presque une nouvelle vie, en fait, qui s'ouvre devant vous.
Et moi, j'ai pas été conscient de l'envergure que ça allait prendre, cette nouvelle vie, comme vous dites. Parce que, et justement, Rebecca, il y a une dizaine d'années, on avait fait une intégrale du Sursis, on avait pris les deux tomes avaient été réunis, et elle avait fait un petit texte, et elle avait dit, et moi, j'ai découvert son texte au moment où il a été publié, et c'était, et elle disait, ça a changé sa vie professionnelle, mais aussi sa vie d'homme. Et ça, j'en étais pas conscient. Mais c'est vrai que ça a changé vraiment la perception de beaucoup, beaucoup de choses. Ouais.
Alors pourtant, avant Le Sursis, vous aviez déjà fait beaucoup de choses.
Ouais.
Hein, mais en tandem.
Oui, 20 ans de
travail. En duo, 20 ans, avec notamment Jackie Berroyer, dont les jeunes générations ne savent pas forcément qu'avant d'être acteur, il est aussi auteur de BD. Vous avez créé 2 séries avec lui, Goudard et ensuite La Parisienne, que vous avez croisée.
Voilà.
D'ailleurs, à un moment donné. Qu'est-ce que vous avez gardé de cette époque, Berroyer? Le sens du dialogue, peut-être?
Alors, exactement. Je pense que par mimétisme, j'ai appris énormément avec lui. C'est un dialoguiste hors pair, Berroyer. Il a une finesse. C'est sans doute la personne, moi, qui m'a le plus impressionné dans ma vie, pour avoir une intelligence, à choper dans l'air du temps, dans ce qui peut se passer à un instant T, de choper la dérision ou de choper la singularité d'un moment et d'en faire un petit produit magnifique par une réflexion. Je crois que j'ai pas croisé une autre personne à ce niveau-là d'intelligence vive, tous azimuts, quoi.
Mais la première qualité d'un homme de bande dessinée, c'est d'observer et d'écouter.
Et lui, c'est un dialoguiste hors pair. Il s'intéresse largement plus au dialogue, d'ailleurs, qu'à l'histoire elle-même. Et en fait, lui disait, moi, des fois, je lui dis, mais il faut qu'on construise une histoire. Il dit, mais... Tu sais, les histoires. Il avait un peu la théorie de Céline qui disait, les histoires, il y en a plein les commissariats. Moi, je mets mes tripes sur la table, je suis un chroniqueur. Lui, c'est un chroniqueur, donc il commençait, À l'époque, il avait encore une machine à écrire, je crois, parce que c'était en, ou en tout cas le tout tout début. Non, il n'y avait pas d'ordi encore à ce moment-là. Hein.
C'était en 79.
Donc, il tapait à la machine à écrire. Donc voilà, il commençait. Robert, ferme la porte. Robert, ça fait deux fois que je te dis de fermer la porte. Et voilà, et il déroulait le fil comme ça et on faisait 50 pages de façon linéaire. Et il écrivait l'histoire en partant de Robert, ferme la porte. Voilà.
Alors, il y a eu ensuite plusieurs autres albums. Hein. Vous avez travaillé par exemple avec MSF, Médecins sans frontières.
Ouais.
Pour des albums autour de l'Afrique, de la Thaïlande, du Guatemala.
J'étais moins à l'aise.
Justement, ça, ouais. Avec Guy Vidal, il y a eu Marée Basse aussi avec Daniel Pecker. Alors, vous citez personne dans le livre, on sent que, mais vous parlez quand même. Alors, je veux pas en savoir beaucoup plus, mais un tout petit peu quand même. Vous dites.
Allons-y.
Vous parlez de collaborations décevantes au pluriel. Pourquoi est-ce qu'elles étaient décevantes?
Décevante, ça ne venait pas des gens avec qui je travaillais. C'était pas eux qui étaient décevants. C'était le fait qu'on était, c'était une association qui était décevante. Moi, je me retrouvais illustrateur de monde qui était pas, dont je me sentais pas franchement complice à 200%. D'où le fait, pour revenir au sursis, c'est par défaut que je me suis mis à raconter une histoire. C'est que à l'époque, Claude Gendreau, à qui je dois effectivement le sursis et toute la suite, enfin la deuxième partie de ma carrière, je la dois à Claude Gendreau, qui est un éditeur incroyable. Et donc ça, là, ça a été une très très belle rencontre. Et il m'avait proposé plusieurs fois avant le sursis des scénarios d'autres auteurs qui pouvaient avoir leur qualité, mais pareil, dont je me sentais pas beaucoup plus proche que voilà.
Et donc vous vous êtes dit, il faut que je m'y mette moi-même.
Voilà, je me suis dit à un moment à 40 ans, raconte ce qui te touche le plus, raconte ce qui voilà. Donc c'était, je me disais au moins tu vas pouvoir choisir tous tes. Je vais me faire ma petite cuisine en choisissant les produits naturels du jardin. Et voilà.
Alors
et
donc, c'était un peu votre jardin aussi.
Oui,
d'ailleurs,
bien sûr.
Ça se passe dans l'Aveyron, dans ce département du sud-ouest de la France. Mais alors, ce qui vous touche le plus, si je vous entends bien, c'est l'occupation, Jean-Pierre Gibrin, puisque c'est à cette époque-là que vous avez voulu situer votre histoire.
Oui, parce que j'avais mes grands-parents, bien sûr, avaient vécu cette période-là et j'avais plein de petits éléments. En plus, j'avais des anecdotes qui étaient l'occupation dans l'Aveyron, ce qui était assez un peu singulier parce que c'était pas le pire de l'occupation, l'Aveyron.
Non.
Il y avait quasiment pas d'Allemands. Les premiers, nous, on était à 20 km ce petit village qui s'appelle Montsalais, c'est à 20 km de Villefranche-de-Rouergue. Et à Villefranche-de-Rouergue, c'était même pas des Allemands, c'était des Croates, je crois, qui tenaient la caserne allemande, quoi. Mais enfin, alliés des Allemands. Mais bon, donc. Après, il y a eu quelques drames parce que la division d'Assreich, quand elle est remontée, est passée un peu dans cette région. Mais sinon, voilà, c'était un peu par le petit bout de la lorgnette. C'était voilà. Donc, c'était des anecdotes plutôt sympathiques. Et moi, l'occupation, ce qui m'intéresse, c'est que c'est des périodes douloureuses, difficiles, et où l'homme finalement se révèle dans toute son amplitude.
On peut être à la fois un salaud ou un héros.
On peut même être à la fois la même personne peut se comporter par moments très lâchement et je m'en exclus pas encore de ça hein, moi.
Vous vous êtes posé la question qu'est-ce que j'aurais fait évidemment. Cette époque-là puisque vous êtes né après guerre.
Moi je suis né en 54.
Une dizaine d'années après. Oui.
Mais je pense que tous les gens de ma génération, voire après, se sont posé la question. Voilà. Et si on est un peu honnête, si on est honnête, on peut pas y répondre. Et si on y répond, il faut garder la plus grande modestie, quoi. Et donc, je pense même que le même personnage peut effectivement avoir eu des lâchetés manifestes et des grandeurs incroyables aussi. Mais c'est quelque chose, ces situations d'exception révèlent l'humain dans ce qu'il a de pire et dans ce qu'il a de meilleur. Voilà.
Mais alors, justement, c'est une façon pour vous aussi, Jean-Pierre Gibrin, j'imagine, de poser la question de l'héroïsme. Donc de l'héroïsme face à l'histoire, de l'héroïsme aussi dans la vie quotidienne. Et un auteur de bande dessinée, c'est aussi un créateur de héros. Pour vous, c'est quoi l'héroïsme, Jean-Pierre Gibrin ?
L'héroïsme, c'est un peu ce que je viens d'expliquer. C'est le meilleur côté qui peut par moment se révéler.
C'est une question de personnalité ou c'est une question de choix, de circonstances?
Moi, j'ai l'impression que c'est comme par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport aux maladies majeures. Les médecins vous disent, vous savez pas comment vous réagirez quand vous allez l'apprendre. Il y a des gens qu'on croit très très costauds et qui s'effondrent. Et il y a des gens qui ont été hypochondriaques toute leur vie et qui vont se battre bec et ongles jusqu'au bout. Voilà. Ben je pense que l'héroïsme, c'est la situation où on peut faire preuve d'un héroïsme, on peut absolument pas le prévoir et c'est du même ordre. C'est-à-dire que vous êtes confronté à une situation à un moment donné et à un instant T, vous laissez rentrer quelqu'un chez vous, vous lui claquez la porte au nez, ça se fait en une fraction de seconde. Si vous le laissez rentrer, vous êtes un héros parce que vous risquez votre peau à votre tour. Et vous êtes, voilà, et si vous lui claquez la porte, vous n'êtes pas forcément un salaud, vous avez la trouille, vous... Enfin voilà, c'est... Je ne sais pas ce que c'est que l'héroïsme, en fin de compte, mais ça révèle, pour moi, ça relève un peu les vraies personnes dont on peut leur donner l'étiquette, leur coller l'étiquette d'héroïsme, eux, ils la refusent, hein, la plupart du temps. Ils ont une vision très très modeste de tout ça. Ils disent juste, j'ai fait ce que j'avais l'impression de devoir faire, hein, tout simplement, voilà. Et... Mais moi, mes personnages principaux, c'est pas des héros, c'est quand même vraiment Monsieur Tout-le-Monde, et donc je me sens assez proche d'eux. Ouais.
Alors parmi ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, Jean-Pierre Givray, il y en a un qui n'a pas choisi le bon côté du manche, c'est le mot qu'on puisse dire, mais que vous admirez pour son écriture, c'est celui qui a écrit ceci.
Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien à dire, rien. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant à Carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc place Clichy, c'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, il me dit rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors on remarque qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Paris ont toujours l'air d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèmes et des bocs.
Voilà, ça c'est la voix évidemment de Michel Simon, aurez reconnu Jean-Pierre Gibral, l'équipite de...
De Céline.
De Céline, de Voyage au bout de la nuit. Un livre que vous citez dans votre entretien avec Rebecca Manzoni. Pourquoi est-ce que ce livre vous a-t-il tant marqué?
Ben, comme tout le monde, je pense que c'est la singularité de l'écriture, la radicalité, et aussi, il y a quelque chose qui est très troublant, c'est que, quand on connaît le parcours de l'homme, avec toutes ces horreurs qu'il a pu écrire aussi, d'ailleurs, et même dans ses attitudes, enfin, bon, voilà, son écriture est le contraire. C'est-à-dire, dans Le Voyage au bout de la nuit, je parle surtout du premier, hein, quand même, du Voyage au bout de la nuit, on sent que c'est un type qui souffre du manque d'humanité du monde, quoi. En premier, et là, il fait pas semblant. Il est vraiment totalement... il a plus de système immunitaire par rapport à ça. Et il prend ça vraiment en pleine poire, et il a une façon de le raconter qui est... le style, quoi, voilà. Il y a une manière, qui m'a totalement ébloui et subjugué, oui.
Alors, l'humain, précisément. Vous en parlez à plusieurs reprises, hein, Jean-Pierre Givray, depuis le début de cette émission. Et c'est vrai que c'est peut-être un mot qui est présent dans chacune de vos œuvres, dans chaque dessin, hein, finalement, dans chaque illustration qui se trouve aussi dans cet artbook. Vous citez d'ailleurs une phrase de Céline qui n'est pas dans Voyage au bout de la nuit, hein. L'homme est humain à peu près comme la poule vole. Oui. Voilà ce qui peut être très drôle, mais finalement qui est assez juste aussi, hein, si on réfléchit bien, effectivement, au sens de la phrase.
C'est drôle parce que c'est juste, justement.
Quelle est l'image de l'humain que vous souhaitez donner à travers vos dessins?
Mais moi, j'ai l'impression que je suis, peut-être j'ai moins de comptes à régler que Céline, donc...
J'espère pour vous.
J'ai l'impression que j'ai un regard plus indulgent sur les gens qui peuvent m'entourer, etc. Et c'est surtout ça que j'ai envie de voir, en fin de compte aussi. En fin de compte, on voit ce qu'on a envie de voir. Hein. Mon fils a une phrase formidable, parce qu'il est encore plus philosophe que moi là-dessus. Il dit toujours... mais il faut prendre les gens comme ils sont, ça paraît tout couillon, mais n'empêche que quand on arrive simplement à appliquer ça, tout est plus léger.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
VMDN avec Jean-Pierre Givray pour la sortie de son artbook aux éditions Daniel Maguen, un superbe ouvrage intitulé L'hiver en été. Vous pouvez nous expliquer le titre d'ailleurs, Jean-Pierre Givray?
Non, je peux pas vous l'expliquer, on a cherché et j'ai l'impression que c'est comme certes, enfin, toute proportion gardée, toute modestie retenue quand même, hein, c'est comme une poésie, quoi. On a cherché à un moment ce titre-là nous plaisait parce qu'il y avait une chronologie dans l'histoire. Ça commençait plutôt justement en été, ça arrivait en hiver. Et finalement, c'était de dire qu'il n'y a pas de saison, quoi. Enfin, bon, là, si on doit donner une explication, mais elle a aucun intérêt, cette explication. C'est phonétiquement, ça fait rêver l'hiver en été, je trouve. Voilà.
Oui, parce que d'autres rêveraient plutôt de l'été en hiver. Vous voyez.
Oui, mais c'est alors là pour le coup l'intérêt est justement d'avoir inversé le truc si jamais il y en a un.
Alors en hiver et en été, la lumière évidemment n'est pas du tout la même et vous apportez Jean-Pierre Gibras et c'est extrêmement clair là aussi une grande attention à la lumière. Par exemple, il y a la couverture du premier tome de Sursis. Hein, on voit votre personnage Julien Sarlat assis derrière un volet à persienne, ce qui vous permet justement de jouer avec les lumières. Décrivez-nous, s'il vous plaît, cette couverture et la façon dont vous l'avez composée.
Finalement, une couverture, c'est la même chose que quand on essaie de trouver un titre. Ça doit être à la fois la résultante de toute l'histoire et sans en dire trop, mais dans l'évocation, être un peu la résultante de toute l'histoire. Et là, donc, sur ce dessin, on voit Julien qui a accoudé la chaise à l'envers sur le dossier de la chaise et il regarde à travers les persiennes la vie de son village. Alors évidemment, on le voit pas.
Il est hors champ, le village.
Le village est hors champ, mais on le voit lui devant des persiennes en train de regarder avec la photo de la fille dont il est amoureux entre les mains. Et c'est tout le résumé de cette histoire, c'est-à-dire que l'histoire du sursis, sans en dire trop, c'est quelqu'un qui revient se cacher dans le village de son enfance. Il revient se cacher, mais personne ne sait qu'il est là. Donc, c'est l'histoire de la petite souris où il entend l'été. Par exemple, il laisse les volets fermés, mais il a la fenêtre ouverte. Il entend tout ce qu'on peut dire, y compris, il entend parler de lui. Et enfin, bref, etc. Donc, c'est cette histoire de un peu de voyeur et de ce pauvre garçon qui est cloîtré dans un appartement pendant une année de la guerre.
Oui, je parlais de tableau tout à l'heure, Jean-Pierre Gibras, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que cette couverture-là, vous l'avez composée. Il y a donc évidemment plusieurs plans, il y a énormément d'objets. On n'est pas du tout dans la surcharge, mais on a l'impression que chaque élément est pensé et pesé au trébuchet.
Mais en fin de compte, c'est valable. Alors, c'est valable dans l'illustration et c'est totalement obligatoire en bande dessinée, puisque la bande dessinée, la première qualité d'un dessin de bande dessinée, c'est la narration. Donc, il faut mettre exactement tout ce qui sert à la narration dans le décor, dans la mise en scène. C'est ça qui dicte, c'est pas l'esthétisme du dessin en lui-même, c'est le pouvoir de narration du dessin.
Donc le dessin soumis à l'histoire. Alors
exactement, c'est totalement la différence entre l'illustration et le dessin de bande dessinée. Dans la bande dessinée, le dessin doit servir l'histoire et jamais oublier qu'il doit être en retrait, en tout cas son rôle est celui-là, uniquement celui-là.
Alors que dans l'illustration, c'est elle qui a l'histoire en totalité.
Exactement. Dans l'illustration, c'est la composition du dessin qui raconte l'histoire en elle-même et une histoire moins cadenassée. Chacun peut y trouver peut y amener un peu son... C'est l'auberge espagnole, quoi.
Chacun appréhende l'illustration comme il l'entend par égard à son propre passé, par rapport à sa culture, à ses références, à ses codes, etc.
Mais pour qu'un dessin soit réussi, quand même... Il faut il peut y avoir une certaine envergure dans la façon dont les gens vont le percevoir. Mais par contre, si vous avez réussi votre coup, les gens, ils vont quand même tous penser à peu près la même chose.
Alors, exemple. Donc là, nous avons une double page dans cet artbook. C'est une illustration autour de l'Exode. Jean-Pierre Gibras. Alors là, par contre, on a un véritable foisonnement de personnages. On a aussi tous les détails que j'évoquais, en particulier dans les décors, mais aussi dans les costumes. Donc là, effectivement, on a la possibilité de se raconter plein d'histoires différentes, non?
Alors là, ce qui est formidable dans ce parti pris-là, de faire des dessins foisonnants comme ça avec une multitude de personnages, c'est que chaque petite scénette, c'est un regroupement de petites scénettes avec une perspective, donc avec des personnages qui ont plus d'importance que d'autres, etc. Mais chacun, même jusqu'à la limite de la définition du dessin, on peut se raconter une histoire par chaque petit groupe. Il y a un personnage, là, on sent qu'il a, il est en train de réparer son vélo. Pour moi, c'est ça, l'Exode, c'était ça aussi. Il devait crever sans arrêt parce que il roulait sur des routes qui avaient la qualité des routes de l'époque. Voilà. Et donc, on crevait souvent en vélo. Et j'imagine que quand on traversait la France en vélo, dans l'Exode, on devait avoir un paquet de rustines dans la poche parce que sinon, on n'allait pas très loin.
Mais ça, c'est même pas un personnage secondaire, sur l'illustration. Il est vraiment presque perdu au milieu de ça.
C'est un figurant, mais dans toutes ces petites scènes de figurants, on peut là aussi trouver des petites histoires, se raconter des petites histoires. Mais ces petites histoires-là, elles sont quand même un peu dirigées par l'expression des personnages, et donc on peut se raconter leur histoire.
Voilà. Alors diriger justement, c'est intéressant que vous utilisiez ce mot, parce qu'il se trouve qu'avant de faire de la bande dessinée, vous avez fait des études de graphisme publicitaire, autrement dit, dans l'idée de délivrer un message, d'inciter quelque chose, la pensée de celui qui regarde. On n'est pas du tout là-dedans, là.
Non, mais même, j'avais fait une école pendant 6 mois qui se définissait comme école de dessin publicitaire parce que c'était le truc le plus accrocheur pour avoir des élèves, j'imagine, puisque c'était l'avenir.
Oui, et puis à l'époque, la publicité, était en pleine expansion.
Était flamboyante, ouais. Mais non, j'ai jamais appris spécialement à diriger. J'ai eu un passé de militant qui m'a abandonné.
Militant communiste, en l'occurrence.
De militant communiste. Je sais pas si c'est moi qui a abandonné l'autre, mais enfin bon, et par exemple, dans mes histoires, je cherche à faire totalement le contraire du militantisme. C'est-à-dire, je cherche à amener les gens à partager des émotions ou des choses. Là, oui. Mais sans jamais leur donner la leçon, quoi. Sans jamais leur montrer. C'est d'arriver à ce qu'ils trouvent sympathique les gens pour qui moi j'ai de la sympathie, voilà. Qui les trouvent sympathiques par leur attitude dans l'histoire et tout ça, mais sans être didactique, surtout pas. Je suis revenu totalement de ça. Alors, je pense que c'est contre-productif, en fait, même.
Mais alors, pour revenir à l'illustration, Jean-Pierre Gibras, est-ce que le principe de l'illustration, vous avez très très bien décrit il y a un instant, est-ce qu'on peut le rapprocher du principe de la photographie?
J'ai jamais été photographe. Je saurais pas. Je suis un peu démuni pour répondre à ça. Parce qu'il y a tellement de façons de faire de la photographie, comme il y a tellement de façons de faire du dessin, quoi.
Oui, mais vous évoquez Doisneau.
Donc voilà, parce que Doisneau, lui, il y a un parti pris de choper
un instant qui
traduit une humanité précise, voilà, d'un gamin.
Et vous le faites, etc. À propos de notamment donc de cette.
Donc là, je me sens très proche de ça.
De dessin dans un train, les voyageurs. Ça se passe à la gare d'Austerlitz.
Pendant l'occupation aussi, d'ailleurs. Oui. Et là, pour moi, c'est l'évocation de ces trains-là, parce que moi, je les ai connus 10 ans après, enfin 10 ans même un peu plus, dans les années 60, quoi. Mais c'était les mêmes, en fin de compte. C'était les mêmes trains avec les couloirs étroits, là, les compartiments, etc., les trains bondés, les valises en carton, etc. Donc, pour moi, là c'était, encore une fois, la lumière. C'est quand on parlait...
la lumière, la photographie, on y revient.
Alors, ouais, la lumière, pour moi, c'est quand même... C'est pas la couleur. Il y a une phrase, d'ailleurs, de... je crois que c'est Rimbaud qui disait « pas la couleur, rien que la nuance ». Et je me souviens, quand j'avais lu ça dans un poème de Rimbaud, ça m'avait vraiment bouleversé. Et j'avais une vingtaine d'années, hein, mais je m'étais dit « mais c'est tellement vrai, ça, c'est pas la couleur qui est importante, c'est la nuance de la couleur, enfin c'est la nuance de la lumière et qui donne la couleur, voilà ». Et du coup, moi j'essaye, par exemple dans mes dessins, pour reparler juste technique 2 secondes, d'aller le plus loin possible dans des en deux couleurs, c'est-à-dire en lumière, avec des brins, et d'installer l'ambiance par la lumière. Et ensuite, la quadrille, c'est-à-dire le fait de faire le béret rouge, la chemise jaune et le pantalon bleu, ça vient à la fin, il faut jamais que ça prenne le dessus sur la lumière. Voilà. Faut jamais que l'œil soit attiré par ça plus que par la lumière.
Rose and flows of angel hair. An ice cream castle. In the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done,
but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels, the dizzy dancing way that you feel, as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way.
Both Sides Now, Joni Mitchell sur RFI dans VMDN avec notre invité Jean-Pierre Givrat. Joni Mitchell, une artiste qui vous touche particulièrement, je crois. C'est presque difficile, je pense, de répondre à cette question, mais je vous la pose quand même. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi elle vous touche particulièrement?
C'est tout simple. Je pense, enfin, pour moi, c'est sans doute l'artiste, la chanteuse ou l'émotion qu'elle arrive à transmettre, et en première ligne en permanence. C'est-à-dire, il y a la qualité de sa voix, la qualité musicale, c'est une grande, grande musicienne, parce que toute la structure, par exemple, d'accords, elle joue en accord ouvert avec sa guitare, et elle a des lignes mélodiques incroyablement riches et subtiles. Mais c'est même pas ça qu'on retient. Enfin, évidemment, ça fait partie de l'ensemble ça contribue à donner la puissance de son expression. Mais c'est surtout qu'il y a une émotion incroyable qui passe dans la façon dont elle chante, et à tel point que c'est bouleversant. Ça peut vous déborder totalement, quoi.
Dans cet artbook publié, je le rappelle, chez Daniel Maguen, ma consoeur Rebecca Manzoni évoque longuement avec vous vos personnages féminins.
Oui.
Et je la comprends, parce que vos femmes, elles sont toutes absolument magnifiques, charmantes et souvent troublantes. Jean-Pierre Givrat, vous dites d'ailleurs dans l'entretien à propos de Cécile, Cécile c'est votre personnage du sursis.
Oui.
J'avais l'occasion de rendre le lecteur amoureux de Cécile, je ne m'en suis pas privé.
Oui. Alors ça, c'est le bénéfice, justement. Ben, encore une fois, quand je disais tout à l'heure là que dans la bande dessinée, le dessin doit servir l'histoire, et il doit pas être, il doit pas faire son malin, quoi. Il doit servir l'histoire. Et finalement, là, j'avais l'intention de dessiner une jolie jeune fille, évidemment, mais ce qui donne la puissance au dessin, c'est ce qu'elle est réellement dans l'histoire. C'est-à-dire la subtilité de cette femme, de cette jeune femme. On tombe amoureux d'elle, non seulement parce qu'elle est jolie, mais souvent je prends cet exemple en disant, quand vous voyez une très jolie fille à une terrasse de café, bah, vous êtes subjugué, vous la remarquez, etc. Mais une heure après, vous n'y pensez plus. Mais si jamais cette fille-là, elle est dans votre entourage, et que vous la côtoyez régulièrement, ben là, vous tombez amoureux dingue. C'est ça la différence. Parce que la personne existe vraiment. Et là, quand je dis je m'en suis pas privé, c'est-à-dire ce personnage a une dimension, et j'essaie de donner une dimension à chaque personnage féminin le plus... comment dire, le plus noble possible, quoi. La bande dessinée, souvent, malheureusement, représente les femmes sur le côté séduisant, mais sexy, quoi. Voilà. Et ça s'arrête là, quoi.
Oh, il y a un côté sexy dans vos dessins.
Oui, 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 mais, alors là, c'est l'histoire du, par exemple, du féminisme. Je me souviens, la première histoire que j'ai dessinée, c'était deux jeunes filles en vélo, et voilà. Et alors elles étaient habillées comme ça se faisait dans les années 77, 78, avec des petits débardeurs et puis des shorts un peu courts. Et des copines féministes me sont tombées dessus vraiment en me disant, mais t'es vraiment, quand même, t'es comme les autres, quoi, tu vaux pas plus cher. J'avais été, malheureux de ça parce que, moi, j'ai dessiné tel que je les voyais, mais il n'y avait aucune vision sexiste là-dedans. Et c'est juste qu'elles étaient charmantes quand elles étaient habillées comme ça, point, quoi. Mais le féminisme a évolué. Moi, j'ai une amie qui est professeur de lettres à Grenoble, et elle est résolument féministe, mais dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire dans l'école plutôt Badinter, pour moi, d'Elisabeth Badinter. Et une fois, elle me disait cette phrase magnifique, elle me disait... aujourd'hui, c'est peut-être pas la majorité, mais il y a quand même des hommes qui considèrent les femmes autrement que le prolongement de leur territoire. Je trouve que c'est une phrase magnifique. Autrement que le prolongement de leur territoire. Et moi, j'ai l'impression que le féminisme d'aujourd'hui, il est totalement défendable quand il est sur ce territoire-là, quand il prend aussi en compte le fait qu'il y a des hommes qui sont conscients de tout le passif qu'ils sont obligés de... Mais ils n'en sont pas forcément complices.
Ils en sont... c'est vrai que vos personnages féminins ont aussi évolué. Ils ont évolué à travers l'histoire, et la condition féminine aussi a beaucoup évolué, en même temps finalement que vos histoires.
Les femmes de mes histoires, j'espère leur donner l'image la plus respectable qui soit.
Alors, parlons de ma préférée, si je veux dire. Préférée, c'est Jeanne, résistante, oui. Brune, aux yeux bleus, avec le fameux béret rouge que vous évoquiez il y a un instant. Elle est dans Le vol du corbeau, qui est sorti chez Dupuis en 2002. Bon, comme je suis un petit peu amoureux d'elle, justement, j'ai envie de la connaître quand même un petit peu mieux. Comment est-ce qu'elle est née sous votre crayon?
En fait, ce personnage de Jeanne, au début, alors, il se trouve que c'est la sœur de Cécile du Sursis. Mais elle ressemble, quand j'ai dessiné Cécile, je me suis pas appuyé sur un personnage. C'était un peu la résultante des filles qui me plaisaient, mais j'ai pas pris un personnage précis. Quand j'ai fait Le vol du corbeau, je me suis appuyé sur les photos de ma femme quand on s'est rencontrés. J'avais des photos d'elle et elle ressemblait terriblement à Jeanne. Voilà, donc je me suis appuyé là-dessus en ayant l'impression de faire un personnage totalement différent de Cécile. Et un jour, je vais chez André Juillard, qui est un type dont j'aime non seulement le travail, mais...
Grand auteur de BD
et un homme charmant. Donc, je viens lui montrer les toutes premières planches du vol du corbeau, où il y avait Jeanne en un portrait même pratiquement, en presque une demi-page. Et là, je m'attendais à ce qu'ils me disent, ah, dis donc, elle est bien, Jeanne. Elle est différente de Cécile, mais elle est très très jolie aussi. Et là, il me dit, ah, c'est sympa, on retrouve Cécile dès la première page. C'est-à-dire que pour lui...
Lui aussi, il y avait tout de suite...
Lui, il voyait toute la similitude qu'il y avait. Et là, c'est un défaut, parce que finalement, je pensais faire une femme très différente, enfin très différente, et je me plantais, quoi. Et donc, il y a quand même un point commun, malheureusement... entre tous mes personnages féminins, et j'aimerais qu'il y ait plus de différences, mais j'ai du mal à y parvenir.
Oui, mais alors justement, on parlait de séduction tout à l'heure, puisque vous vouliez rendre le lecteur amoureux de Cécile, en ce qui me concerne, donc vous avez réussi avec Jeanne. La beauté, le charme pour vous, elle est dans quoi? Elle est dans la suggestion, elle est dans la bouche pulpeuse, dans le petit nez mutin, dans une posture, dans le corps, dans tout ça en même temps?
Eh ben oui, ça dépend, dans tout ça en même temps. Comment voulez-vous dire quand vous tomber sous le charme d'une femme, on peut arriver à définir des éléments, des des éléments qu'on va extraire, quoi. Mais l'ensemble qui crée quelque chose ou qui ne crée pas quelque chose. Et l'ensemble peut créer un charme, j'allais dire destructeur, en tout cas envahissant, et qui est dû à la résultante de plein de petites choses, quoi. Même des défauts. Même des défauts. C'est-à-dire, par exemple, la dissymétrie. Moi, je crois énormément à la dissymétrie. La dissymétrie, c'est ce qui rend un visage charmant. A priori, la dissymétrie, on aurait tendance à penser que ça dégrade. Et en fait, c'est tout le contraire. Une jolie fille, quand elle a le sourire un peu tordu ou un œil un peu plus fermé que l'autre, ça crée une expression incroyable, quoi. Voilà. Mais chez les hommes aussi, d'ailleurs.
Et puis, il y a aussi l'accessoire, si je veux dire, qui, parfois, dans votre dessin, peut être un peu essentiel. L'accessoire peut être essentiel. Par exemple, là, il y a Amélie, que je vous mets sous le nez. Donc, Amélie, quand vous la dessinez, Amélie, c'est dans la série Matteo, de ce jeune anarchiste qui traverse l'entre-deux-guerres en particulier. Et là, donc, sur le dessin que vous avez devant vous, il y a la cigarette et les lunettes d'aviatrice.
Alors,
et c'est ces accessoires-là qui lui donnent justement son charme, sa personnalité.
Il n'y a rien de plus craquant qu'une fille habillée en mec, par exemple. C'est-à-dire une fille qui a un pull trop grand, qui fait pas attention justement à sa séduction féminine, mais la séduction, elle reste là, par tout ce qu'elle est en profondeur. Toutes ces expressions qui sont la traduction de sa finesse, de sa subtilité, de son intelligence, j'en sais rien. Les regards, y a tout ça là-dedans. Et finalement, quand en plus, elle abdique sur la féminité convenue, d'être dans des vêtements féminins un peu sexy et qu'elle a une veste de mec trop grande, un pull, je sais pas quoi, un casque d'aviateur sur la tête, ça peut être encore plus bouleversant. Voilà, ça, je crois à ça. En tout cas, j'ai souvent observé ça, quoi.
Jean-Pierre Gibras, dans cet artbook, vous avez cette phrase qui peut paraître étonnante. « Mon dessin n'est malheureusement pas approprié aux contemporains ». Alors c'est vrai que vos histoires se passent toujours dans la première moitié du XXe siècle, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Pourquoi est-ce que vous êtes persuadé que vous ne pourriez pas dessiner une histoire d'aujourd'hui, une histoire de notre époque?
Parce que les choses vont trop vite, tout simplement. C'est-à-dire que moi, je peux pas mettre moins de 2 ans à faire un album. Si vous faites un album sur l'air du temps aujourd'hui, de mai 2019, moi, mon album, il va sortir en 21.
Donc, et les choses changent si vite.
Mais bien sûr.
Mais graphiquement parlant, ou du point de vue du scénario?
À la limite, même graphiquement parlant, c'est-à-dire les vêtements, les trucs un peu marquants d'une époque. Si vous êtes dans le contemporain, faut relever le marquant d'une époque. Mais vous pouvez pas relever le marquant d'il y a 2 ans. En tout cas, vous perdez beaucoup.
Oui. Vous dites ça, et pourtant vous dites en même temps, je suis pas un dessinateur réaliste. Donc,
mais j'ai pas l'impression d'être non, mais puis j'aime pas ça qu'on me dise ça.
Pourquoi?
Mais parce que dessiner la réalité, ça n'a aucun intérêt. Un photographe, c'est pas l'appareil photo. C'est le regard qu'il a sur le monde et ce qu'il en fait. Donc le réalisme, dessiner les choses telles qu'elles sont, ça n'a pas d'intérêt. Il faut les dessiner telles qu'on les ressent, telles comment on peut les filtrer et ce qu'on va en ressortir nous et qui peut toucher les gens parce que c'est un regard. C'est comme un écrivain. Un écrivain, il va raconter quelque chose que vous connaissez, mais lui, il va le raconter avec des mots qui vont donner une valeur à cette chose-là. Et je me rappelle de Maupassant qui raconte un moment dans une vie, il raconte un coucher de soleil derrière les peupliers. On peut pas faire plus tarte, hein, normalement. Oui. Hein. Bon, vous opposez même pas, envoyez ça en carte postale à votre grand-mère. Et ben lui, il raconte le soleil qui passe derrière les peupliers, et c'est sublime. C'est sublime parce que il donne une impression de ce que ressent le personnage à travers ça, qui est absolument exceptionnel. Voilà.
Merci. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gibras, d'être venu dans VMDN partager avec nous.
Comme disent les petits commerçants, c'est moi.
Merci infiniment. L'hiver en été, votre artbook est disponible, je rappelle, aux éditions Daniel Maguen.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Pour terminer cette émission, on va prendre la direction du Palais de Tokyo à Paris, hein, qui propose en ce moment une exposition intitulée « La voix libérée », voix s'écrivant V-O-X, l'occasion pour le visiteur de s'intéresser à la poésie sonore. Cette fois, Fanny Blechner a tendu l'oreille pour nous.
300, indice total, indice total brut, indice total net, indice total net, TTC à régler, indice heure, emporter un article TX, TVA, MT, HT, MT, TVA, MT, TTC,
l'investiture de Barack Obama.
L'exposition est située dans les entrailles du musée. Tout commence avec un panneau et quelques indications. Il y est question de poésie sonore. Serait-ce des poèmes enregistrés ? J'ai posé la question à l'un des commissaires de l'exposition, Patrizio Peterlini.
Alors la poésie sonore, c'est l'évolution de la poésie phonétique, c'est-à-dire la poésie qui a commencé avec le futurisme et le dadaïsme, qui a libéré la poésie dans les livres, qui est sortie dans les livres et qui a engagé les corps. Et la rencontre avec la technologie d'enregistrement, c'est-à-dire les revox et les magnétophones, qui a permis à les artistes, les poètes en particulier, de prendre sa voix, la enregistrer, la modifier. Donc ouvrir un nouvel espace d'expression que c'est celui précisément de la poésie sonore, c'est-à-dire la possibilité de modification de la voix et de la bouger, de la transformer, de la renouveler et découvrir aussi avec l'enregistrement, avec le micro, tous les sons possibles de l'appareil vocal, c'est-à-dire pas seulement la voix, les mots, mais aussi des brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr qu'il y a toute une sorte de bruit qui va renouveler l'expression. Voilà.
Des vocables qui peuvent donc devenir poésie, c'est un peu l'idée. Outre un mur comme une fresque du temps qui donne à voir les évolutions techniques liées à la prise de son, le cœur de l'exposition est une petite salle ronde à l'acoustique parfaite, plongée dans l'obscurité, légèrement en pente avec un système de circulation qui rappelle des ondes concentriques. Au milieu, des œuvres audio sont diffusées. Éric Mangion, également commissaire de l'exposition.
Alors il y a exactement 75 pièces sonores qui ont été sélectionnées, choisies, qui courent des années 50 à aujourd'hui. Il n'y a aucune hiérarchie historique, ni de valeur, ni d'importance. Toutes sont mélangées. Et ce qui a disposé le choix en fait, qu'on a fait entre Patrizio et moi, c'est vraiment cette logique des mots et du son. C'est vraiment s'inscrire dans une poésie sonore qui n'est pas une poésie uniquement du langage courant, mais qui dépasse le langage courant en allant chercher des sources sonores extérieures.
L'une de ses œuvres s'appelle « B comme Babil ». Elle a été réalisée par la performeuse Violaine Lochu.
C'est une pièce sonore que j'ai faite en 2015 lors d'une résidence à la synagogue de Delme. C'est un centre d'art contemporain où je suis allée en fait enregistrer les babils des tout petits, en fait de 8 mois à environ 12 mois, des tout petits dans les crèches des environs. Et à partir de là, donc j'ai baissé tous les babils de 2 octaves, donc ce qui donne la tonalité d'une voix de femme, et j'ai tout découpé et tout recomposé, ce qui donne cette espèce de poème très étrange, proche de voix préhistoriques ou extraterrestres. Et moi, mon travail est vraiment là-dessus, sur le dessous, les côtés, tout ce qui est autour du langage.
L'occasion donc de s'interroger sur notre rapport aux mots, mais plus généralement, aux voix que l'on emprunte et aux différentes formes que la poésie peut épouser.
Reportage de Fanny Blechner, La Voix Libérée. Une exposition à découvrir au Palais de Tokyo jusqu'à ce dimanche. Sachez aussi que vous pouvez télécharger l'application qui accompagne cette exposition et découvrir gratuitement tous les contenus audio qui y sont diffusés. Une pause, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec la chanteuse Anissa Bensala pour son nouvel album Sauvage chez Ovastand. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.